Alors, bon, je vais peut-être faire une petite aparté avant de commencer. Je me rappelle les réunions auxquelles j'ai participé pour voir la présentation du programme. Et donc, on n'entend pas ça, non, comme ça? Bon. Et bon, je suis très très content d'être dans cette perspective, alors non pas d'accompagnement, mais effectivement de positionnement par rapport aux autres professions que la profession de chercheur. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve profondément dans l'attitude un petit peu qu'on rencontre au général dans la société, qui est d'appeler la science comme une sorte de légitimation des pratiques, en disant voilà, la science est censée aider à la décision et des choses comme ça. Ce qui est vrai, hein, les questions, on a envie d'être utile, etc. Mais pour moi, si vous voulez, le positionnement est vraiment, comment dire, la téléspécialisation dans notre monde est telle, hein, que chaque métier apporte une contribution exceptionnelle, hein, par rapport comment dire, au temps ancien, au temps plus ancien, au passé, hein. Mais en même temps, la communication entre ces mondes de la recherche notamment et des autres mondes professionnels est très, très mauvaise, hein, parce que cette spécialisation, ben, rend la communication extrêmement, extrêmement difficile. Ce qui signifie, c'est que les contributions que nous, en tant que scientifiques, on peut faire, elles donnent des conclusions, bien sûr, elles donnent des instruments, dont je vais aborder tout de suite, mais il reste une immense part aux interprétations personnelles. Et je pense que ça, donc il faut, moi, c'est ce que je souligne quand je fais cours, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, et je pense que l'esprit du programme, moi, je me suis senti tout à fait à l'aise comment dire, dans ce positionnement des professions, hein, ni aucune profession n'a une position comment dire, de surplombante sur les autres, hein, et surtout pas la nôtre. Voilà, donc ça c'est une petite aparté que je voulais faire. Alors, je suis très ému de vous voir réunis aujourd'hui, vous imaginez bien, parce que ça fait un petit moment que je vous sollicite, que je vous imagine dans cette salle, hein. Donc voilà. Donc je suis très content aussi de pouvoir passer à quelque chose où les émotions sont moins présentées, sont moins présentes. En tout cas, j'ai fait mon début de présentation comme ça. Alors, je voudrais commencer par partir de la perception, hein, de partir de la perception par la présence du corps dans l'espace, et donc partir de cette notion de neutre, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le neutre? Ben, c'est d'abord une gamme de la perception, hein, et c'est sur la gamme de l'acidité, c'est une partie de la, comment dire, des stimulus ou des situations qui sont, comment dire, qui ne provoquent en fait aucune réaction. Hein, et donc, si la perception était mesurée par la réaction, hein, à ces expositions à des éléments plus ou moins acides, hein, ben, ça serait une sorte d'invariant de la perception. Donc quelque chose qui est un petit peu, comment dire, imperceptible en fait. Perceptible par les écarts à ces stimulus qui seraient neutres, vous voyez. Et quand les écarts ne sont pas trop grands, ben, c'est un petit peu le piment de la vie, hein. C'est ce qui est intéressant, etc. Et qui permet de percevoir en fait qu'il existe un point où justement la perception est très faible. Donc il y a une sorte de centralité qui fait référence avec une imperceptibilité de ce centre qui fait référence. Alors permettez-moi d'être un petit peu romanesque, hein, mais si vous allez à gauche de cette perception, vous tombez dans le monde très acide, et là vous tombez dans quelque chose qui échappe un peu à toute mesure, qui est le destin et la tragédie. Hein, je reviens un petit peu là-dessus tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire, bon, imaginez, par exemple, les romans sont pleins ou les films sont pleins de personnes dont les corps sont exposés à des produits très acides, vous voyez, ça veut dire qu'ils sont confrontés quand même à leur destin. Et la même chose se passe si vous allez à l'extrême droite, où vous avez des produits très alcalins, comme la soude caustique, bon, imagine que c'est la même chose. Voilà. Alors, maintenant, on passe un petit peu. Vous savez que les économistes, les gestionnaires, enfin, notre monde scientifique utilise beaucoup, enfin, pour notre part, utilise beaucoup les mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un élément neutre dans le monde mathématique? C'est un invariant opératoire. Donc, vous avez le zéro qui est invariant, enfin, qui est l'invariant pour l'addition. Et l'opération de l'addition, et le 1 qui est l'invariant pour l'opération de multiplication. Donc un élément neutre, c'est un élément qui, par une certaine opération, appliquée à d'autres éléments du même ensemble auquel il appartient, ne crée pas d'effet, crée un effet imperceptible. Alors, interpréter dans le monde, dans un monde concret, par exemple, le monde que nous connaissons, que vous connaissez, bah, ça peut être un critère souhaitable, vous voyez, ça peut être une caractéristique souhaitable. Par exemple, si vous faites des opérations d'exposition ou de transport d'œuvre, bah, il peut être souhaitable que l'état de conservation de l'œuvre se maintienne, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être interprété, c'est ce qu'on fait nous, c'est chaque propriété mathématique, logico-mathématique, en fait, a une interprétation dans le monde réel avec des agents, des personnes, des histoires, des situations, etc. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré dans cette discipline tout au long de mon parcours. Alors maintenant, on en vient au cœur de la logique qui nous intéresse, nous, les économistes, enfin, Moëse, etc., moi, hein, c'est le cœur, c'est la logique de la concurrence. Okay? Qu'est-ce que c'est que cette concurrence? C'est un invariant par substitution. Hein, donc, c'est une opération, la substitution. Hein, vous prenez deux chaises, hein, et vous remplacez une chaise par l'autre pour des gens qui les utilisent ou qui les produisent. Et si ça ne crée aucune réaction, parce qu'ils ne voient pas de différence entre la chaise à la première et la deuxième, vous avez un invariant par substitution. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bien? En fait, c'est une classe d'une multiplicité de biens, potentiellement une infinité de biens, pour nous, quand on formalise, qui ont cette propriété d'invariant par substitution. Aucune réaction à une substitution d'un produit. Cette invariance de réaction provoque une hyper-réaction à une toute petite modification du prix. Hein, si vous avez deux stations-service avec une station qui propose le carburant à 2,05 € et l'autre à 2,03 €, tout le monde va se précipiter sur la station avec 2,03 €. Donc cette hyperaction des prix, nous on dit infinie, traduit cette propriété d'invariant à la substitution, l'homogénéité du bien. Hein, donc vous avez à la fin un seul prix sur un marché. Donc voilà, donc en fait, autant de biens, de ces classes de biens que de marchés. Un marché, c'est un bien homogène, parfaitement substituable, où la concurrence s'exerce. Et bien entendu, il y a plusieurs biens dans l'économie, c'est ça qui est intéressant. Et donc, vous avez plusieurs marchés, hein, vous avez une étude, hein, de toutes ces relations entre ces biens homogènes sur lesquels s'exerce cette concurrence. Voilà, c'est le cœur de la logique de la concurrence. Alors, là, quand on passe au marché, potentiellement c'est la même chose, vous avez forcément au moins deux marchés, hein, en macroéconomie c'est au moins le marché du travail et le marché des biens. Et après, vous pouvez étendre les modèles à beaucoup plus de marchés, voire aussi potentiellement une infinité de marchés. Donc il y a une extension de ce mécanisme très simple. Et donc il y a une forme d'invariant applicatif qui s'applique à tout ce qui peut faire l'activité humaine dans lesquelles, qui est basée sur des échanges, des transferts. En échange, c'est un terme un petit peu valise, pas pour nous, hein, mais pour des transferts de biens ou de services entre des individus, entre des institutions, etc. Donc, vous avez une possibilité d'analyser ces relations entre tous ces marchés potentiellement infinis. Alors, pour nous, c'est la référence. Vous avez donc un invariant applicatif, hein, qui s'applique à tout. C'est une sorte de ouvre-boîte qui ouvre toutes les boîtes du moment que ça peut s'en faire, avec une très très grande taille potentiellement. Ce qui est important, bien sûr, là-dedans, c'est, je souligne, moi, le côté visible ou invisible de ce mécanisme de marché, hein, étendu à l'ensemble général, étendu à l'ensemble de l'activité qui peut se traiter en termes d'échange par nous, les économistes, par exemple. Alors bon, cette invisibilité est connue. Il ne s'agit pas, bien entendu, de l'invisibilité du marché lui-même, hein, des échanges, des biens, des personnes. Là, on peut les compter, faire des volumes, les interpréter, etc., les comparer. Il s'agit de l'invisibilité du mécanisme, hein, comparé à des mécanismes ou des institutions publiques qui, elles, sont bien visibles. Vous voyez, vous n'avez pas. L'institution du marché n'est pas visible. Hein, c'est le produit d'une sorte d'échange, etc. Alors, si tout fonctionnait comme ça, bah, il y aurait un certain nombre de métiers qui disparaîtraient. D'abord, le nôtre, hein, donc le métier de la recherche disparaîtrait, mais probablement, au moment, un certain nombre de métiers des personnes qui sont dans cette salle, hein, les institutions publiques, et aussi pas mal de métiers privés, mais qui rencontrent des difficultés avec le transport, par exemple, avec ce modèle, ce cadre qui fait toujours référence. Pourquoi ? Parce que ben, on s'éloigne un peu du cadre, pas de problème, vous interprétez. Le cadre est vide. Aujourd'hui, le marché concurrentiel qu'on décrit est vide. Personne ne fait ça. Aucun marché a cette concurrence dite parfaite, peut-être très longtemps, mais maintenant, c'est plus du tout le cas, vous voyez. Mais c'est l'écart qui nous intéresse. C'est l'écart. Si l'écart est petit, ok, pas de problème. Mais quand l'écart est trop grand, là, vous avez la situation tragique dont je vous parle tout à l'heure. Le lexique, le mot tragédie est dans le lexique de la discipline économique, de la science économique, en particulier pour l'intervention publique, notamment avec ce thème qui est au tableau. Voilà. Chaque chercheur modifie un petit peu ce rapport à cette référence ancienne périmée, qui ne s'applique pas bien, qui réside avec un fait qui résiste, un fait tragique, et essaye de proposer des instruments qui le ramènent qui le rapprochent du benchmark, qui le rapprochent de la référence. C'est ça notre boulot, proposer des instruments au moins théoriques, dans l'idée applicable, mais souvent très difficile à appliquer, qui rapprochent, je vous laisse imaginer des instruments par rapport au problème que j'ai mis au tableau. Voilà. Mais c'est pas seulement, je pense que ça, cette question d'invariant n'est pas propre à notre travail théorique, si vous voulez, de mise en œuvre de cas et d'exposition d'études de cas. C'est vrai, en fait, pour tous les métiers. Tous les métiers, devant des situations particulières, qui sont des situations singulières, qui sont dans le domaine du tragique, chaque destin, chaque service a des... Bon, essayez d'appliquer quand même des invariants, créer un invariant propre qui a une généralité de cette façon que vous ayez des règles, on en verra sûrement quelques-unes aujourd'hui, qui essaye d'avoir une attitude un peu générale, un peu neutre, pour faire face à des situations particulières sans à chaque fois réinventer les modes opératoires. Sinon, ce ne serait pas une profession. Finalement, c'est quasiment synonyme de savoir-faire et de compétences professionnelles. Alors, il y a un métier, il y a une situation particulière, c'est le monde du risque. Le monde du risque, le risque, finalement, ça peut être un bien qui a des bons aspects quelquefois, parce qu'on parle toujours des risques négatifs, mais vous avez aussi les bonnes surprises, notamment en art, c'est fréquent. C'est aussi vrai pour quasiment toutes les professions dans lesquelles le risque intervient. Donc là, vous avez une restauration du risque par les métiers, de la neutralité au risque. Si l'attitude des agents était neutre au risque, si les situations de production étaient neutres au risque, il n'y aurait pas d'assureur. Et il n'y aurait pas non plus certaines modalités de transport, par exemple, qui ont des bonnes propriétés assurantielles, comme la route, ou si une option de route, de voie est bloquée, vous avez plein d'options, donc vous avez une sorte d'assurance, un petit peu comme la diversification des portefeuilles par les banques et par le monde de la bourse, ces métiers-là auraient beaucoup moins de valeur et disparaîtraient. Par exemple, l'assurance disparaîtrait. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas. Vous avez des instruments qui sont bien visibles. Et vous avez notamment l'intervention publique et puis les instruments. Enfin, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Alors, je crois que je n'oublie rien. Oui, l'assureur. Que fait l'assureur ? Quand vous n'avez pas... Imaginez un monde très pauvre. Considérez les mondes très pauvres, les sociétés très pauvres, qui n'ont pas ces systèmes d'assurance. Ils sont exposés aux contingences. Vous voyez, vous habitez dans un village et il y a une crue qui emporte tout le village. Ils n'ont plus rien. Vous voyez ? Un feu. Vous êtes exposé à des contingences sporadiques. Les contingences de système sont mal assurées. Ne peuvent pas vraiment s'assurer. On en parle, on essaye, mais bon, ça ne marche pas bien, bien entendu. Mais si c'est sporadique, pas de problème pour l'assureur, vous voyez. Dans un monde très pauvre, il n'y a pas d'assurance. Donc voilà, vous avez une situation où dans des administrations publiques, suivez mon regard, qui soutiennent très peu le monde public. Vous voyez quelles administrations je pense. C'est pareil, vous avez l'attitude de risque qui est très... Le manque de neutralité au risque apparaît très, très tragiquement, vous voyez, pour des tas de situations. Là. Voilà. L'assureur transforme votre tragédie individuelle en une banalité statistique. Et donc, il permet d'échanger, etc., de financer sans problème ces cas sporadiques. Et on trouve largement la part pour financer. Si vous êtes bien couvert par une assurance, votre attitude par rapport aux contingences est beaucoup plus relaxe. Vous vous retrouvez dans une situation de neutralité avec un instrument, hein, mais voilà, ou si l'État a des attitudes par rapport aux risques de santé, de chômage. Oh, vous êtes cool, il n'y a pas de problème, vous êtes neutre, c'est confortable. Ouais, vous perdez votre travail, bien sûr, c'est un petit écart, mais c'est bon. Alors si, voilà, donc maintenant, on attaque le sujet vraiment qui résiste, hein, bien à l'activité, à la compréhension par les marchés, à notre compréhension d'économiste. Un art neutre, ça existe, hein. On en parlait hier, il y a Rothko, il y a Achoux, c'est ça? Vous avez des artistes qui travaillent sur ces arts un peu imperceptibles ou perceptibles après un certain temps, vous voyez, ce chose, ça existe, c'est vrai. Mais normalement, l'art, un art neutre, c'est pas général, vous voyez, vous avez, c'est des écarts très importants, proches des tragédies, hein, de l'aspect tragique. Bon, ça, c'est moi un petit peu qui romance un petit peu ma présentation. Mais vous avez, bon, vous tombez, les artistes essayent de se différencier fortement, hein, des références, hein, vous avez le rapport au canon, etc. Enfin, je ne vous apprends rien. Hein, donc les écarts sont en général des écarts importants. Et on tombe sur le destin des œuvres, surtout des œuvres, certaines œuvres singulières, et aussi le destin des artistes. Hein, ça se met devant de la scène. Voilà. Bon, maintenant, donc, il y a une propriété quand même, hein, qui défend un peu, nous, notre activité d'économiste de l'art. Alors, je sais pas, c'est pas, je me sens pas économiste de l'art, mais bon, intéressé par l'art, en tout cas. Alors c'est vrai, hein. Si les œuvres étaient uniquement singulières, si ce n'était que des destins particuliers qu'on pourrait décrire dans des tragédies, dans du théâtre, dans des romans, les économistes n'auraient rien à dire. Ok, moi ça ne me poserait aucun problème. Alors heureusement pour nous, malheureusement, etc., je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais les œuvres, fussent-elles très singulières, très particulières, sont toujours connectées à un ensemble d'œuvres, des collections, des courants, des écoles, la production de l'artiste lui-même ou elle-même. Voilà, vous avez tout un ensemble, les situations géographiques, vous avez tout un ensemble d'œuvres auxquelles vous rattachez une œuvre singulière. Et ces œuvres-là, elles ne sont pas toutes, comment dire, homogènes, vous voyez, donc voilà. Voilà, donc ici, l'homogénéité ne peut pas être totalement évacuée, vous voyez. C'est ça qui pose un problème, en fait, c'est que l'art, on ne peut pas évacuer complètement cette homogénéité, mais elle ne fait pas du tout sens d'une façon générale. Hein, donc c'est un problème. Alors pour terminer, je vous ai présenté une œuvre d'un artiste. Ici, je vous laisse quelques secondes pour lire le titre de l'œuvre. Peut-être que certains dans cette pièce connaissent l'œuvre. Là, je vous présente la vignette de cette œuvre dans le catalogue en ligne de la collection permanente du Centre Pompidou. Alors, je ne sais pas si vous lisez, mais vous avez ici des mots-clés, vous avez triptyque, c'est un triptyque, vous avez bon, l'œuvre, la description rapide de l'œuvre, l'année, etc. Vous avez, c'est de la photo, c'est sur le panneau chlorée, ça fait une taille de 1,35 m sur 2,85 m de large. Et puis vous avez l'acquisition, c'est un don d'ArcelorMittal avec une date. Là, vous avez les vignettes qui apparaissent. Vous avez les vignettes qui apparaissent sur le catalogue, ce sont donc un triptyque, il y a autant de vignettes que de panneaux. Chaque panneau renvoie à une page d'un article, deux, trois pages, qui est un article scientifique qui nous, évidemment, nous parle, on se reconnaît tout à fait dans l'œuvre. Et là, je vous présente un détail de l'œuvre. On voit, je ne sais pas si ça se voit parce que j'ai voulu, mais je ne sais pas si ça se voit bien, on voit, enfin, sur mon écran à moi, on voit des petites imperfections, le grain du papier, des petits défauts dans la typographie, vous voyez, donc on pourrait, voilà. Et voilà, je vous laisse contempler ce détail pour terminer. J'ai dépassé, non?
C'est bon. Juste, est-ce que je peux compléter?
Ah oui,
voilà. Non, non, mais c'est juste. Je vais juste compléter, mais pas par rapport au contenu, là, c'est bon. Je pense que Luc a démontré que l'économie, quand même, ça reste un peu théorique. On fait des efforts, quand même, pour aller vers des questions plus pratiques. Je voulais juste revenir sur l'objectif de la journée. Donc, en fait, on a.
c'est de concevoir la journée pour plus d'interactivité. Donc vraiment, c'est les exposés, c'est juste une expression. Mais ensuite, l'idée, c'est qu'on va avoir des difficultés parce qu'on est quand même de disciplines diverses. Chacun qui va parler, il ne va pas être vraiment très bien appréhendé par le reste de la salle. Mais l'idée, c'est vraiment de s'exprimer et de chercher un petit peu un point commun entre les divers acteurs, parce que le sujet est par construction multidisciplinaire, on va dire. Et donc l'idée, c'est de chercher un petit peu l'interactivité, l'interaction, et voilà. Donc sur ce que Luc vient d'exposer, je ne sais pas si vous avez des réactions, mais je laisse Christophe ensuite gérer le reste. On passera